Je voulais explorer deux ou trois idées qui sont issues de la philosophie bouddhiste, parce que quand on aborde une retraite, finalement, c'est cette philosophie-là qui sait le mieux ce qui est pertinent pour des personnes qui sont dans une retraite silencieuse. Évidemment, avec la traduction à ma sauce ou à la sauce laïque. Une citation qui est dans un sutta. La nature de l'esprit est lumineuse, sereine, mais elle est visitée par des afflictions temporaires. L'esprit est vu comme fondamentalement lumineux et serein, mais embrumé, encombré par des visiteurs qui ne sont pas toujours les bienvenus, les visiteurs de l'auberge, et les différentes émotions et états d'esprit qui peuvent nous éloigner de cet état-là. Et le travail méditatif à ce moment-là se présente comme un dépoussiérage. On enlève la couche qui nous empêcherait de profiter de cette qualité sereine, lumineuse de notre esprit. Et en fait, je trouve que cette citation est intéressante parce que c'est quelque chose qui distingue la pleine conscience de beaucoup d'autres approches psychologiques, psychothérapeutiques. Traditionnellement, on identifie des problèmes et on les soigne, d'après la métaphore médicale, où on identifie leur cause et on va chercher, en trouvant la cause, à modifier les difficultés qu'on rencontre. Mais il y a toujours cette idée qu'on a des problèmes, en fait, fondamentalement, et puis qu'on va les traiter, les soigner, hein, et qu'on a peut-être des solutions spécifiques pour des problèmes spécifiques. Et en pratique méditative, on part du principe que on va faire une seule chose, c'est observer avec de plus en plus de finesse ce qui se passe en nous, et en le faisant, on trouvera un mieux-être parce que ces états d'esprit désagréables ou difficiles prendront moins de place, seront perçus différemment, mais l'approche est la même, quel que soit le problème de départ. Et on part en effet du principe que fondamentalement, tout va bien, mais qu'il faut un travail de clarification de l'esprit pour qu'on s'en rende compte et qu'on y accède. Et c'est ce que vous observez dans la méditation, parce que si vous passez un certain temps à méditer, et c'est aussi le cas par moment dans l'expérience d'une retraite, il y a un moment où ce qui vous gênait avant ne vous gêne plus tout en étant toujours présent, parce que votre perspective a changé sur ses émotions, sur ses états d'esprit. Et il y a les moments de grande stabilité, de grand calme, de grande sérénité qui apparaissent, pas parce qu'on a trouvé moyen de contrer notre anxiété ou de contrôler notre tristesse, mais simplement parce qu'on a médité suffisamment longtemps en observant ce qui se passait en nous pour qu'on trouve en nous cet état de calme, hein, sans avoir eu à faire quelque chose de particulier, d'autre que de méditer et de laisser ce processus qu'on pourrait appeler sédimentation. Vous savez, c'est quand de l'eau claire se détache petit à petit de la boue parce que la boue tombe au fond, ou les petites boules de souvenirs pleines de neige qu'on secoue, et petit à petit la neige tombe, et on peut voir clairement à travers la boule sa nature cristalline et tout à coup apparente. C'est un peu la même chose dans la pratique méditative. Et c'est une grande différence par rapport à la plupart, pas toutes, mais la plupart des écoles psychothérapeutiques. Donc ce que vous êtes venu faire ici, c'est frotter, nettoyer, faire briller le caractère naturellement serein, lumineux, disent-ils, de votre esprit. Ça implique aussi qu'il n'y a pas d'effort particulier à faire pour neutraliser quelque chose qui vous gênerait ou pour répondre de façon spécifique à une pensée qui vous gêne, c'est toujours la même chose qu'on fait. Et, on observe ce qui se passe, on affine notre capacité à observer. Et sur la durée, ça nous révèle cette partie de nous qui est en effet plus sereine, plus calme, qui est là, en fait. Elle est tout le temps là. On parle de ce principe. Là. Elle est tout le temps présente en nous, mais parfois, il nous faut du temps pour y accéder. Et j'aime bien cette image de... J'aime bien penser que mon esprit est lumineux. Au fond. Une autre idée de la philosophie bouddhiste qui est pertinente pour nous, je trouve, c'est ce qu'ils appellent dukkha, ou le stress, ou mal traduit par la souffrance. Le fait que, étant humains, nous sommes sujets à un certain nombre de choses désagréables. Ils en font une liste quasi exhaustive. Il y a la maladie, la vieillesse, la mort, l'association avec ce qu'on n'aime pas, la séparation d'avec ce qu'on aime. Là, il y a déjà une couverture assez large avec cette liste-là. Mais dans l'optique de la philosophie bouddhiste, c'est absurde de chercher à lutter contre ça. C'est inhérent à la nature humaine. Et c'est en ayant conscience qu'on en est moins affecté. C'est pas en cherchant à y échapper ou à nier que ces désagréments-là sont livrés avec notre nature humaine. On peut y mettre toute la liste des émotions désagréables qu'on vit. L'anxiété, la colère, la honte, la culpabilité, la tristesse. Et dans le contexte méditatif, on vit la méditation comme une invitation à créer un espace dans lequel on peut être avec nos vulnérabilités. Donc toute cette liste d'états désagréables qui peuvent nous visiter, en reconnaissant, et je pense que c'est probablement l'élément qui soulage est là-dedans, en reconnaissant que c'est pas notre problème, c'est le problème de tout être humain, et que c'est pas notre anxiété, c'est l'anxiété qui visite tout le monde à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. C'est aussi une invitation à voir derrière les émotions difficiles ce qu'elles ont d'indispensable et de noble, peut-être, et de bien intentionné. Derrière l'anxiété, voir la volonté qu'on soit en sécurité et que nos proches soient en sécurité, qu'il n'arrive rien à personne, finalement, forme de bienveillance. Derrière la colère, on peut voir une soif de justice. La honte et la culpabilité, ce désir d'être une bonne personne pour les autres. Et la tristesse en creux, une forte envie de bonheur et d'être une personne heureuse. Donc cette reconnaissance, moi je préfère en fait, après mûre réflexion, ce terme de dukkha, stress, souffrance, la traduction que je trouve dans un contexte laïque contemporain la plus juste pour moi, c'est simplement vulnérabilité, en fait, de reconnaître que nous sommes tous vulnérables et qu'on peut honorer cette vulnérabilité et reconnaître qu'elle fait partie de nous, hein, et que si on le fait, elle nous cause beaucoup moins de tort que si on lutte ou on nie le fait qu'on soit tous vulnérables. Et ça, c'est la première des trois caractéristiques de l'existence dans la philosophie bouddhiste, la dukkha. Mais il y a aussi un grand classique que les personnes qui ont déjà vécu une retraite ici connaissent déjà. Je ne sais plus comment raconter cette histoire maintenant. Anicca, l'impermanence. L'impermanence, c'est-à-dire que tout passe, qui s'est cristallisé dans cette phrase « ça aussi, ça va passer », dont on sait qu'elle a été... dans des légendes en trois langues, en persan, en arabe est en hébreu associé à un roi qui avait demandé qu'on le grave, on grave cette phrase sur une bague pour qu'il ait toujours la bague à portée littéralement de main et qu'il puisse la lire quand il en avait besoin. Et que dans les moments de bonheur, le « ça aussi, ça va passer » lui rappelle que ces moments étaient vulnérables, justement, qu'il devait en profiter pleinement tant que c'était là. Et dans les moments de peine, le « ça aussi, ça va passer » lui permettait de savoir qu'après cette peine, il y aurait quelque chose de plus agréable à vivre, que cette peine n'aurait qu'un temps. Dans votre destin de méditant à chemin, j'aimerais vous rappeler ma petite liste de ce qui va passer. Vous allez vivre des moments de confort qui vont passer. Vous allez vivre des moments d'inconfort qui vont passer. Vous serez concentré parfois, ça va passer. Vous serez déconcentré, ça va passer. Vous aurez de la somnolence ou de la lucidité, ça va passer. De l'agitation et du calme, du rejet ou de l'acceptation, du doute ou de la confiance. Vous aurez cette envie, au milieu de la nuit, d'utiliser votre application Uber pour faire venir un taxi qui vous ramènerait à la maison. Parce que votre voisin du dessus ronfle, celui d'à côté fait un cauchemar, et vous ne savez plus du tout ce que vous faites là, ce que vous êtes venu faire là. Vous aurez peut-être cette envie-là, je suis certain qu'elle va passer, avant même que le taxi soit arrivé. Vous aurez peut-être l'envie de vivre toute votre vie dans un monastère, tellement que vous serez convaincu des vertus de la retraite méditative. Vous aurez la main sur la tondeuse. Ça va passer. Et vraiment, tout ça va passer. Et en fait, le jeu, c'est de l'observer passer. D'observer passer les moments d'exaltation, de concentration, de plaisir, et d'observer passer les moments de désespoir, de frustration, de fatigue. Et quand on prend cette idée au sérieux, je la trouve extraordinairement sécurisante, en fait, parce que de prendre conscience que tout passe, paradoxalement, ça nous donne une très forte stabilité intérieure, parce que nous, en tant qu'observateurs qui observent les choses passer, dans cette position-là, il y a de la stabilité. Plutôt que d'être emporté par les états et les événements, on est dans cette position où on sait que ça va passer, on sait que ça va changer. Ça nous libère de l'obligation de réagir à tout immédiatement et de l'impuissance qui va avec la peur que les choses désagréables soient permanentes. Et comme elles ne le sont pas, et on peut les observer, ne pas l'être. Et c'est quelque chose que je dois régulièrement me rappeler. Quand je vis un moment de conflit avec quelqu'un, ou quand je fais ou dis une bêtise, et que j'ai des pensées de remords qui me viennent. On a parfois, quand on médite, cette conviction complètement idiote qu'on devrait être capable de revenir à un état calme en un clin d'œil. Et quand on a typiquement vécu un conflit avec quelqu'un, quand on a fait quelque chose de bête ou dit quelque chose de bête, c'est inévitable qu'on soit habité, visité par des pensées de remords, de honte, de colère. Et plus je me répète que tout passe, plus je suis aussi capable d'accepter que, pour l'instant, ça ne passe pas. Il y a aussi cette idée, et c'est la troisième caractéristique de l'existence, qui s'appelle le non-soi, mais que je préfère simplement comprendre comme le fait que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos sensations, nous ne sommes pas nos émotions. Les neuroscientifiques ne savent pas où est située notre conscience dans le cerveau. Personne ne sait en fait où elle est. Et c'est finalement pas si surprenant que ça que nous non plus, nous soyons incapables de savoir exactement où est située notre conscience. Et qu'on l'associe à ce qu'on est en train de vivre, mais elle ne se limite pas à ce qu'on est en train de vivre. Quand on considère que ce que nous sommes est ce que nous sommes en train de vivre, quand on se définit soi-même comme l'émotion, par exemple, qui est présente, ça peut vite devenir étouffant. Si vous êtes l'anxiété, par exemple, ça peut être extrêmement désagréable. Et ça va un petit peu avec l'impermanence, puisque c'est l'anxiété, par exemple, est quelque chose qui nous visite et qui va partir. Donc, ça ne nous définit pas comme personne. Et dans le travail méditatif, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, de se sortir d'un état avec lequel on a l'impression de se confondre pour se mettre à l'observer, s'en détacher pour l'observer. On appelle ça, si vous voulez la passer complètement dans le jargon psychologique et quitter le jargon de la philosophie, passer du contenu de l'observation du contenu à celle du processus. C'est toute la différence entre « je suis anxieux » et « ah ah, il y a de l'anxiété ». Je suis anxieux, on est pris dans le contenu de nos pensées, on se définit par ce qu'on est en train de vivre. Le processus, on observe un processus qui est l'apparition d'une émotion intense dont on sait qu'elle va repartir après. Et on est à ce moment-là avec cette partie de nous qui observe et plus avec cette partie de nous qui est anxieuse. Donc quand dans vos méditations, vous êtes tout à coup pris dans le contenu, c'est une invitation à nommer ce qui vous arrive et à l'observer et à passer à ce niveau du processus. Par exemple, ça ne marche pas, cette méditation est un échec. Oh, on dirait que je suis pris dans le contenu. Alors, on pourrait appeler ça du découragement. Et à partir du moment où vous dites « Ah ah, il y a du découragement » et vous savez qu'il est apparu et vous savez qu'il va disparaître, vous êtes dépris de cet état-là, en tout cas partiellement. Ça a aussi une invitation dans les moments où vous avez l'impression que c'est fantastique, vous avez tout compris, vous avez passé un palier, tout en profitant légitimement de la satisfaction et de l'extase peut-être présent, de remarquer aussi que vous êtes dans cet état-là d'intense satisfaction, que cet état-là aussi, il est très plaisant et donc il faut en profiter parce qu'il peut être remplacé par un autre état neutre, par exemple, un peu plus loin. En fait, on essaye constamment de coller au plus près de notre attention, de rester avec l'attention elle-même dans la méditation. Et à chaque fois que quelque chose, comme par exemple un état de somnolence, nous prend, c'est comme si on voyait le monde entier avec des lunettes de somnolence, et dans ce cas-là, on prend les lunettes, on les met devant nous, et on en fait un objet d'observation. Et à chaque fois que vous réalisez que vous portez des lunettes en ce moment, des lunettes d'un état quel qu'il soit, c'est vraiment cette idée d'arrêter de regarder avec ces verres-là, mais de regarder les lunettes elles-mêmes, d'observer l'état lui-même, de lui donner un nom, d'en faire quelque chose que vous observez. J'aime beaucoup ces trois caractéristiques de l'existence parce que ça correspond à quelque chose qu'on vit tous en méditation Et la direction, je pense en particulier à au ça aussi ça va passer de l'impermanence et au non-soi, c'est vraiment un outil pratique quand on est en train de méditer, de se rappeler de ces deux choses en fait, que on peut tout transformer en quelque chose qu'on observe plutôt qu'en quelque chose qui fait partie de la personne qu'on est, et que tout ce qu'on observe aura un début et une fin. Vous êtes aussi venu là, à part pour observer les trois caractéristiques de l'existence, vous êtes aussi venu là pour cultiver des plaisirs méditatifs. Parce que, évidemment, avec toute cette attention qu'on a à ce qui cloche, ou ce qui est censé clocher, puisqu'on sait que ce n'est pas le cas, puisque notre nature est lumineuse, on oublie parfois d'observer les moments où tout va bien. Et en particulier, la pleine conscience en elle-même, cet état d'attention en soi est agréable. C'est intéressant de le remarquer. Quand vous êtes avec votre respiration et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que la respiration, quand vous êtes en attention ouverte et que vous laissez simplement les choses aller et venir, il y a des moments où vous êtes essentiellement avec cette partie de vous qui est capable d'observer, et psychologiquement, c'est un état agréable. Ce n'est pas neutre, c'est légèrement agréable, subtilement agréable. On n'est pas dans un état extatique, mais c'est cette forme de lucidité, de clarté, de stabilité de l'esprit, elle n'est pas neutre. Et je vous encourage à l'observer et à peut-être noter la satisfaction que vous pouvez ressentir à simplement être en pleine conscience pendant une partie de votre méditation. J'aimerais aussi vous encourager à sourire tantôt pour doucement vous moquer des mouvements de votre vie intérieure qui sont parfois rigolos, et aussi peut-être un sourire de tendresse parfois pour ce qui se passe en vous. Rien ne dit que notre attention doit être émotionnellement neutre. Parfois, avoir un petit sourire au coin des lèvres quand on s'assied pour méditer nous encourage à vivre de façon plus agréable le défilé de choses étranges qu'on va vivre pendant 30 ou 45 minutes. Vous pouvez essayer d'ailleurs, c'est un exercice tout à fait pratique, sans forcer vos muscles faciaux, mais en vous asseyant, en commençant une méditation, d'avoir un petit sourire sur le visage et de voir si ça change quelque chose dans la manière dont vous abordez cette méditation. Les plaisirs méditatifs, c'est aussi la liste de ces états qu'on peut cultiver et encourager, et on va en visiter un certain nombre pendant ces 2 jours qu'il nous reste. Bienveillance, compassion, la joie empathique, le contentement, la gratitude. On va commencer à les visiter tout à l'heure. Et on les gardera généralement pour la fin de la journée, comme une manière de se donner une petite griotte sur notre forêt noire au kirsch. Et peut-être aussi de tourner notre esprit dans une direction bienveillante avant d'aller se coucher. Faire démarrer quelque chose peut-être en nous. Un avertissement que je donne aussi chaque année, mais quand on est dans une retraite méditative, je pense que c'est peut-être, plus elle est longue, plus c'est spectaculairement ridicule. Mais on peut donner beaucoup d'importance à des choses qui n'en ont pas du tout. Donc, si vous réalisez que quelque chose qu'a fait votre voisin de chambre ou quelqu'un au moment du repas de midi, ou quelque chose que j'ai dit, moi, vous avez l'impression que c'est terrible, que c'est très grave, c'est probablement pas le cas. Mais le fait qu'on soit en introspection tout le temps. On passe beaucoup de temps dans notre tête quand même, dans notre corps aussi, mais dans notre tête. Et on peut parfois, ça peut avoir l'effet d'amplifier certaines choses. Ça correspond d'ailleurs aussi à cette envie d'appeler un taxi ou de vivre dans un monastère jusqu'à la fin de vos jours. Ne signez rien pendant une retraite méditative. Attendez d'être revenu chez vous. Et n'accordez pas trop d'importance à ce qui peut tout à coup en prendre beaucoup. Ça aussi, ça va passer.